Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur Radio France Internationale, sur RFI, bien sûr, la radio mondiale où on vous parlera aujourd'hui, eh bien, malheureusement, encore du coronavirus, empêcheur de jouer normalement au foot. Les listes de joueurs en quarantaine, malgré les nombreux contrôles, s'allongent et les matchs sont à nouveau menacés. Les éliminatoires africaines de novembre, paraît-elle. Elles aussi sont sur ces listes et auront-elles bien lieu? C'est la question que l'on va se poser car le doute s'installe un peu. Une petite Roja vaincue hier soir en terre ukrainienne. Les hommes de Luis Enrique ont beaucoup essayé, mais rien concrétisé. Pourquoi cette équipe d'Espagne est-elle à la peine? Mario Balotelli, sans contrat, l'attaquant italien, ancienne vedette de la Première Ligue et de la Serie A, n'aurait plus la tête au football. Balotelli rime-t-il avec gâchis? Le gâchis, c'est en France avec Mediapro, la chaîne sino-espagnole chargée de retransmettre le championnat, mais qui a suspendu ses paiements. Quelle solution pour les clubs qui dépendent tellement aujourd'hui des sommes de droits télé? J'espère que vous nous en direz plus. Étienne Moati, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un feuilleton haletant chaque jour dans le journal L'Équipe.
Oui, un feuilleton haletant et un feuilleton inquiétant pour les clubs français.
Oui, aujourd'hui, l'appel de une, c'est la peur de la banqueroute. Alors vous nous en direz plus. Nabil Djellit aussi, bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aux côtés de Philippe Doucet. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Alors Monsieur Philippe, j'ai un salut à vous transmettre de Mohamed Schofield. Alors il ne nous dit pas d'où il écrit, mais en tout cas il dit
D'Écosse,
bonjour.
D'Écosse, non?
Ben oui, c'est ce qu'on pourrait. Moi aussi, je me suis posé un peu la même question, mais c'est peut-être un pseudo. Et il me dit, s'il vous plaît, passez mon bonjour à mon idole, Philippe Doucet.
Oh, c'est sympa.
Et bonne émission à vous. Donc,
notre idole à tous.
C'est sympa.
Radio Foot, c'est parti.
Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu.
Eh oui, Cristiano Ronaldo, de retour en Italie, le capitaine de la sélection portugaise qui était à l'isolement depuis que ses deux tests positifs au coronavirus ont été déclarés. Eh bien, il est rentré chez lui à Turin à bord d'un jet médicalisé. Même s'il est asymptomatique, Cristiano Ronaldo restera en quatorzaine, ce qui hypothèque grandement les rendez-vous de la Juventus en Ligue des Champions et notamment le face-à-face guetté avec Lionel Messi. Lui, il s'en est sorti. On vous en avait parlé d'Antonin Panenka, le Tchèque, auteur de la fameuse première Panenka. Il a ce matin quitté l'hôpital où il était en soins intensifs pour rentrer chez lui. C'est ce qu'a indiqué l'entourage de cet ancien joueur professionnel de 71 ans. Ainsi vont donc les nouvelles avec la pandémie, alternant bonnes et mauvaises nouvelles. Les équipes africaines en ont fait les frais. Hier après-midi, quelques heures seulement après, avant le coup d'envoi, on apprenait que le duel entre voisins, la confrontation Sénégal-Mauritanie, était annulé à cause du virus. C'était le sixième de ces matchs amicaux concernant les sélections africaines à être suspendues pour cause sanitaire. Après Libye-Togo, Tunisie-Comores, Tunisie jeune, les moins de 20 ans, Guinée-Bissau, Angola, Guinée-Gambie ou Mali-Iran. Libye-Togo, justement, une annulation en vertu du coronavirus, mais qui n'était pas vraiment clair, au dire de Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers.
De regrouper 38 personnes pour un stage pendant 10 jours, c'est compliqué, ça coûte cher. On est triste et dans l'incompréhension la plus totale. On ne peut pas trouver le moindre argument qui justifie que ce match n'ait pas eu lieu. On a voulu prétexter un argument comme quoi on n'avait pas fait les tests Covid et tout. Personne ne peut avoir plus fait les tests Covid que l'équipe togolaise.
Claude Leroy au micro de Michel Picard. Alors, quelles que soient les raisons, toutes ces annulations liées au coronavirus, liées soit à des décisions sanitaires locales, soit à des ententes entre fédérations, et puis des grands joueurs qui manquaient aussi à l'appel. Évidemment, on pense à Sadio Mané et les Lions de la Teranga. Philippe, est-ce que tout cela laisse planer des doutes pour les prochains matchs africains? Là, en plus, ils étaient organisés en Europe. Les prochains seront uniquement en territoire en Afrique. Est-ce que ça peut laisser planer des doutes sur la tenue des éliminatoires, on rappelle, Cannes 2021 ou 22, et surtout les matchs 3 et 4, c'est-à-dire ce fameux match aller-retour.
Oui, grosse inquiétude, à mon sens, grosse inquiétude. Enfin, moi, je le dis depuis au moins un mois facilement, parce qu'on ne voit pas très bien dans quel conditions on va pouvoir jouer. Si on compte les pays dont les frontières sont fermées, alors on peut les ouvrir pour des footballeurs, mais il faut encore que les avions arrivent. Or là, ça concerne 48 pays, c'est-à-dire aussi des tas de fédérations qui n'ont absolument pas les moyens de mettre des avions privés ou autres. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse jouer dans 48 pays, 48 matchs, dans 48 pays différents, à l'occasion de ces matchs pivots, comme vous dites, les matchs aller-retour. J'ai beaucoup de mal à considérer que dans un mois, à peine un mois, eh bien tout soit OK et qu'on puisse jouer partout. Et j'ai du mal aussi à considérer qu'on doive attendre jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire qu'on se dise « Ah ben on va peut-être jouer, ah, peut-être pas, ça va dépendre ». Ça me paraît très très risqué, pour, je pense que le président Hamad, qui en plus est en période un peu électorale d'ores et déjà, j'ose penser qu'il va quand même avoir une réflexion et se dire « Bon, ne courons pas à la catastrophe, faisons pas n'allons pas vers des annulations en cascade de dernière minute et autres comme le Sénégal, le Mauritanie et que du coup ce sera peut-être l'ensemble de la journée qui sera reportée. Je pense un petit détail qui me semble extrêmement important. Emané et Keïta ont été contrôlés, ont été positifs dans ce voyage. Est-ce que les clubs comme Liverpool et autres vont pas dire non, moi j'autorise pas mes joueurs? Et là, la FIFA qui est en train de draguer les grands clubs pour sa Coupe du Monde des clubs, je la vois très très mal dire non, le règlement est strict, vous laissez vos joueurs, etc. Je pense que les clubs vont avoir une voix prépondérante qu'on peut entendre d'ailleurs. Ils déploient des millions de frais sanitaires et autres pour protéger leurs joueurs et tout d'un coup ils vont jouer un match, ils reviennent positifs. Bon, on peut comprendre.
Alors, Nabil, évidemment, il y a aussi Cristiano Ronaldo qui rentre dans cette liste.
Il n'y a pas que l'Afrique.
Évidemment, et il n'y a pas que l'Afrique. Et David Kalfa, notre confrère, a fait sur le site de RFI.fr et dans les pages Afrique Foot un article très intéressant justement sur ces regroupements. Et il note que 85% des matchs des équipes ont eu lieu, mais en même temps, beaucoup étaient en territoire européen. Mmh. En fait, on avait organisé ces matchs amicaux ailleurs. Et justement, avec ces grands joueurs ou petits joueurs qui jouent en Ligue 1, qui jouent voire en deuxième division dans les championnats européens, est-ce que ça va compliquer la tâche des prochains matchs, selon vous aussi ?
Bah, moi, je pense qu'ils sont complètement hypothéqués, donc il va falloir voir comment ça se passe dans les faits. J'espère qu'ils ont déjà un plan B, s'ils ont déjà pensé. Après, il y a quand même une contradiction. Alors, effectivement, moi, je suis pas spécialiste, je suis pas virologue, j'ai pas les chiffres, mais jusqu'à présent, de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend, l'Afrique est plus ou moins, en tout cas, épargnée, entre guillemets.
Oui. L'OMS a même dit que le nombre de gens touchés diminuait, mais comme en Europe, on teste énormément là-bas, on teste moins, il y a peut-être aussi ces différences.
Après, il y aurait eu un indice, c'est la saturation des hôpitaux en Afrique, et on n'a pas d'image qui nous reviennent dans ce sens-là. Je sais que, par exemple, en Afrique du Nord, en Algérie, aujourd'hui, les frontières, elles sont fermées. C'est parmi les pays où ça circule le plus. Mais ça reste très en deçà de ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Moi, je pense que les clubs européens vont mettre la pression pour que ça se fasse
pas.
C'est
ça le problème. C'est la tentation, ou peut-être le danger aussi pour ces clubs, de vouloir préserver ce qu'on peut préserver en ce moment, on pourrait dire, Étienne Moati.
Oui, mais il y a des soucis en Europe aussi. Donc Cristiano Ronaldo est positif, il y a eu bien d'autres joueurs
non,
avant
puis,
lui.
Non, puis par exemple, lui ne pourra pas disputer la Ligue des Champions, ce qui est évidemment grave pour son club.
Oui,
pour
c'est peut-être grave pour son club, mais ce n'est pas si grave que ça donc, pour le football européen qui continue de jouer. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de problème particulier en Europe pour organiser les matchs de football en dépit du Covid-19. Il y a un protocole très clair qui a été mis en place et qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public dans les stades ou très peu, ou un peu plus sur certains matchs qu'organise l'UEFA. Il y a une liste de 13 joueurs donc, qui doit être disponible pour disputer un match. C'est très peu, mais ça suffit. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de matchs qui sont annulés parce qu'il y a trop de joueurs qui sont positifs. Donc, il y a un système qui fonctionne. Donc, pourquoi il ne pourrait pas fonctionner en Afrique ? Il y a toujours ce problème-là. C'est vraiment dramatique parce qu'il n'y aurait pas de raison objective que les matchs ne puissent pas avoir lieu.
Non, mais c'est surtout que les clubs ne veuillent pas lâcher leurs joueurs.
La moitié des joueurs viennent d'Europe.
Oui.
C'est la grande difficulté.
C'est ça le problème.
La grande différence avec.
Il y a des règles précises donc pour mise à disposition des joueurs. Ce ne sont pas les clubs qui peuvent et qui doivent décider de si leurs joueurs sont susceptibles ou pas d'aller en sélection.
C'est pas les clubs, mais si la FIFA ne soutient pas les pays, ce qui est une hypothèse, pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse.
Ça n'est qu'une hypothèse, mais parce qu'il y a quand même une réglementation qui est une réglementation très claire. Si un joueur, donc, donc doit être mis à disposition de sa sélection, qu'il soit africain ou européen ou asiatique, il doit être mis à disposition de sa sélection.
Quand t'es Klopp, tu passes plus facilement un coup de fil pour dire à la Guinée de pas prendre Sadio Mané que Firmino au Brésil. Je veux dire, le rapport de force. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Naby Keita, voilà. Bon, le rapport de force. C'est vrai ce que tu dis. C'est la règle, elle est claire. Ouais, ouais. T'es légaliste et t'as raison. Sauf que tu sais très bien qu'il y a un rapport Il y a un rapport de force qui est différent.
Voilà. Le fait est que l'Afrique n'a pas joué en septembre et octobre, voilà, où elle devait faire également les matchs de Cannes. Ouais. On les a repoussés.
Peut-être que c'était un test. Mais en tout cas, le problème, Philippe, peut-être, c'est aussi un calendrier très serré, parce que théoriquement, d'ici juin prochain, on devrait connaître tous les qualifiés de cette CAN, parce qu'après eux vont commencer les éliminatoires de Coupe du Monde 2022. Grandes compétitions en même temps.
Pour la CAN, il n'y a pas de problème. Pour la CAN, on peut espérer qu'on aura quand même les qualifiés pour janvier 2022. On aura les qualifiés. Ouais. Il n'y a plus que 4 matchs à jouer. On y arrivera sans doute largement. Par contre, évidemment, tout ce qu'on retarde en ce moment va retarder les qualifications pour la Coupe du Monde. Et là, il y a un moment où on va être très coincé. Quant à la fameuse CAN 2023, on peut même d'ores et déjà en plaisanter. Il est hors de Côte d'Ivoire. Mais c'est totalement impossible, compte tenu des décalages de date, c'est totalement impossible qu'on puisse avoir une CAN en 2022.
On évoquait les pressions donc, qui peuvent être mises par la FIFA donc, sur certaines sélections, mais ça peut aussi fonctionner en sens parfaitement inverse. C'est-à-dire que le président de la FIFA, lui aussi, donc, il a une dimension électorale, et que si les fédérations africaines font pression sur le président de la FIFA pour que les choses se passent correctement et que les joueurs donc, soient mis à disposition...
Oui, mais ça devrait marcher. Bien sûr.
Ça devrait pouvoir marcher. Je suis d'accord que ça n'est pas toujours le cas, mais la pression, elle peut fonctionner dans les deux sens.
Si la CAF effectivement agissait en ce sens-là, ça pourrait. Ça pourrait. C'est une hypothèse qui, pour l'instant, demeure à vérifier. Pour l'instant, ce qu'on vérifie, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la CAF se plie à tout ce que dit la FIFA. Et la FIFA, en l'occurrence, j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle va plus écouter les grands clubs qui vont dire, il faut pas que mes joueurs y aillent. On a qu'à reporter à mars.
En plus, on a perdu de l'argent déjà cette année. Ça suffit comme ça.
Oui. Il y a de multiples moyens de pression. Et j'ai quelques raisons de penser que c'est pas l'Afrique qui sera écoutée.
Corona, donc, comme le dit le refrain, monsieur Corona nous embête bien. Allez, on continue, on va parler des matchs d'hier soir.
Luego Yarmolenko, y ahí está la carrera de Tigankov, corre Navas.
Un but qui fait mal à la Roja. La sélection espagnole était sans doute à la recherche, elle aussi, d'une victoire un peu plus simple après les résultats qu'elle avait vus, obtenus par la France en amical, certes, mais face à l'Ukraine et puis plus sérieusement en Ligue des Nations, en match officiel, l'Allemagne qui avait aussi gagné aux dépens des Ukrainiens. Mais au troisième match, les joueurs de Shevchenko, sans doute portés par les 20 000 spectateurs qui étaient au stade olympique de Kiev hier, ont enfin inversé la tendance. Alors que l'Espagne l'avait emporté 4-0 et en match aller, c'était évidemment en Espagne, elle a perdu hier soir par 1-0, signant là la première défaite du retour de Luis Enrique à la tête de cette équipe. Le sélectionneur a cependant refusé d'imputer au seul gardien David De Gea la responsabilité de la défaite.
La responsabilité de chaque but que nous concédons incombe à toute l'équipe, car il y a 11 joueurs qui défendent. Nous n'avons pas le droit de blâmer toujours De Gea. Je pense que ce n'est pas élégant et même injuste. Et puis je vais aussi analyser ce que j'ai vu sur le terrain. Je ne pouvais pas voir la position exacte de tous les joueurs à ce moment-là, mais je suis sûr qu'il y a certains aspects à améliorer pour chaque joueur.
Étienne Moati, Luis Enrique nous dit certains aspects à améliorer pour chaque joueur. Alors qu'est-ce qui doit être amélioré dans cette équipe d'Espagne ?
D'abord dans son intervention, donc elle est logique pour un entraîneur. Il y a une boulette énorme de son gardien, donc c'est normal à ce moment-là.
Qui ne va pas trop bien par ailleurs dans son club.
Ça fait quelques années que ça ne va pas trop bien pour un gardien qui était annoncé comme le meilleur portier du monde. Il est sur une pente descendante depuis assez longtemps. Et c'est franchement un but casquette, c'est un placement totalement abracadabrantesque.
On se surprend régulièrement de ses erreurs.
Et voilà, il se qu'elle se répète, elle se répète. Maintenant, évidemment, ça n'est pas la seule explication à la défaite de l'Espagne, parce que en première mi-temps, les Espagnols auraient dû plier le match. Ils ont eu 6-7 occasions très nettes sans réussir à marquer. Voilà, donc c'est une sélection qui vaut mieux que ça. Mais c'est aussi une sélection, et c'est peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, le cas de l'Allemagne, qui aime à se priver de certains joueurs avec une volonté de renouvellement de l'effectif. C'est bien le renouvellement, ça peut être pas mal aussi.
Ils
de garder...
Ils profitent de la Ligue des Nations pour ça, pour un renouvellement.
Oui, oui, en tout cas, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Il y avait une équipe très jeune.
Ansu Fati titulaire, notamment.
Voilà, il y a des joueurs qui ne sont pas plus appelés ou qui reviendront sans aucun doute. Ce qui faisait une équipe un peu déséquilibrée, dans le sens où très portée vers l'offensive, mais donc manquant de cadre aussi dans l'organisation et au milieu de terrain.
Pour vous aussi, Nabil, c'est une des explications. On a vu Adama Traoré, hein, le joueur de Wolverhampton.
Oui, qui a été très, très actif.
Qui était titulaire pour la première fois, et effectivement, à sa manière.
Moi, je ne tirerais pas d'enseignement particulier de ce genre de match. Si l'Espagne est ballottée, dominée, je veux bien, mais là, concrètement, c'est quand même eux qui ont mené la danse. Ils ont un réservoir incroyable. Ils sont dans une forme de transition. Etienne a parlé des nouvelles têtes qui apparaissent. Ferran, Ansu Fati, Adama Traoré, qui a choisi plutôt l'Espagne. Que le Mali qui a tout de suite apporté, donc c'est plutôt intéressant. Après, il faut pas non plus oublier et sous-estimer l'adversaire, même si on a une image ici tronquée de l'Ukraine puisqu'on les a rencontrés en amical.
Mais c'est pas ça, mais ils avaient surtout beaucoup de titulaires.
Là tu peux pas dire ça parce que l'équipe d'Ukraine,
c'était pas celle
que l'équipe de France a rencontrée, mais c'était quand même très moyen.
Une bonne moitié. Non, mais ils ont récupéré quelques joueurs, je veux dire, ça reste.
C'était très moyen.
Je pense que c'est pas non plus une mauvaise équipe.
Non, il y a une tradition, voilà, effectivement, mais...
L'Ukraine, moi je pense qu'il n'y a pas de conclusion particulière à tirer, c'est une équipe qui se prépare, elle sera certainement complètement prête, entre guillemets, en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est toujours en 2022, hein, rassurez-moi, parce que là je suis perdu dans les calendriers.
Et en 2021, on a un euro.
Et oui, mais...
De l'année 2022.
Ouais, voilà, fin de l'année, merci Étienne de me recadrer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner, ça veut pas dire qu'elle peut pas gagner en 2021, parce qu'il y en a, ils vous disent, oui, il faut construire une équipe pour 2022, mais si tu peux gagner en 2021, il faut y aller.
Philippe Doucet, quand on dit l'Espagne, elle a un réservoir énorme de joueurs, mais on a l'impression quand même qu'on a du mal à les voir émerger.
Bon, il y a toute une génération
qui est en passe de partir. Parce qu'il y a toutes leurs promesses.
Oui, et puis il y a une génération qui s'en va, qui est un peu au bout, qu'on verra de moins en moins. Bon, Piqué est parti, Busquets va partir à un moment ou à un autre, etc. Mais de toute façon, en termes général, pourquoi s'étonner que cette Ligue des Nations serve à préparer ? On a deux tournois importants en un an. En un an et demi, allez, soyons généreux, c'est-à-dire l'Euro et la Coupe du Monde. Évidemment que la Ligue des Nations, elle sert à préparer, c'est un peu comme des matchs amicaux améliorés, très améliorés, et d'ailleurs l'UEFA l'a créé, la Ligue des Nations, au départ pour ça, pour éviter justement qu'on tâtonne dans les matchs amicaux ou autres, et du coup, elle a fait cette compétition pour remplacer les matchs amicaux. Donc évidemment...
Ils sont plus ou moins remplacés, donc.
Oui,
c'est des matchs amicaux à haute altitude, parce que c'est voilà,
ça, avec des, voilà, c'est des mieux, bons c'est, adversaires.
C'est plus excitant.
C'est mieux que les matchs amicaux et ça rapporte plus d'argent. Donc tout le monde est d'accord.
C'est excitant. Moi,
tout le monde est d'accord, mais il faut le prendre comme une préparation. Et moi, tous ces matchs de préparation, les résultats, il faut les regarder avec des pincettes. Il y a des tas de choix de sélectionneurs qui, effectivement, seront démentis quand tout d'un coup il faudra faire la liste pour l'Euro.
Notre grande compétition.
Et puis c'est des tournois, ça n'a rien à voir. On sait bien que ces matchs en période de tournoi n'auront rien à voir avec tout ce qu'on voit dans des matchs amicaux améliorés d'aujourd'hui en Ligue des Nations.
Nabil, vous disiez, vous y prenez plaisir à cette Ligue des Nations.
Oui, je sais qu'il y a beaucoup. J'ai vu qu'Arsène Wenger avait dit qu'il fallait abandonner la Ligue des Nations pour d'autres formats. Je sais que certains.
Oui, parce que c'est la Ligue des Nations, c'est une compétition organisée par l'UEFA et Arsène Wenger, donc aujourd'hui il est employé par la FIFA. Donc,
d'accord. Bon.
Je pense que ça joue un petit peu dans son. Dans son observation,
dans sa manière de voir la réalité.
Merci pour cet éclairage. Non, parce que moi je trouve ça quand même intéressant parce qu'en fait on a quand même des belles affiches et du lourd en général.
Italie, Pays-Bas.
Oui, mais quand t'as Pays-Bas, je préfère ça que bon. Je suis désolé, mais je veux pas manquer de respect à certains pays, mais bon, me coltiner France-Moldavie puis France-Géorgie tout de suite derrière, bon. C'est sympa, ça me permet parfois de découvrir des bons joueurs dans ces pays-là et un potentiel. Mais très sincèrement, je préfère regarder France-Croatie et France-Portugal la dernière fois. Même si je me suis ennuyé, mais ça reste toujours quelque chose. Il y a des stars et on sent que c'est des équipes qui se jaugent. Alors elles se livrent peut-être pas totalement, mais je trouve que cette formule, c'est un bon compromis. Voilà.
La formule est intéressante, mais je pense que c'est un prémisse des futurs formats de qualification. Je pense que l'UEFA en tirera, et peut-être la FIFA aussi, contrairement à ce qu'elle dit. Ils en tireront des conclusions en se disant bon, le modèle qui avec les France Moldavie et France Liechtenstein et autres, il a un peu vécu.
C'est un peu comme dans le hockey sur glace. Vous avez des divisions. Voilà, c'est D3, D2, D1 et voilà, ou même dans le tennis.
Sur les futurs qualifs.
En Coupe Davis, quoi. C'est un peu l'esprit. Moi, je suis plutôt pour.
Étienne Moati, on a eu donc, vous aviez envie d'en parler, alors je viens vers vous, de l'Allemagne. L'Allemagne, hier, on a beaucoup parlé avec Habib Bey, notamment, des choix et du désir, finalement, de rénovation de Joachim Löw dans son équipe, même si il est, par ailleurs, très critiqué pour certains de ses choix dans son pays. Hier soir, ils ont donc joué contre la Suisse et ils ont dû se contenter d'un match nul, avec beaucoup de buts, 3-3, mais résultat, ils encaissent 3 buts. Est-ce que elle est poussive pour vous, l'équipe d'Allemagne?
Les choix qui ont été faits par Löw, il y a déjà un bon moment, de se passer des cadres du Bayern Munich, ça pouvait sembler finalement une option intéressante, en se disant que c'était des joueurs peut-être qui étaient des joueurs déclinants. D'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, ils l'étaient un peu. Oui. Thomas Müller ou Jérôme Boateng, c'était des joueurs, c'est vrai, qui n'étaient pas dans une forme optimale, et on pouvait penser qu'ils étaient un peu sur la fin. Les dernières saisons du Bayern Munich, la dernière saison de Ligue des Champions du Bayern, sont des joueurs qui ont été exceptionnels et qui sont revenus à un niveau exceptionnel. Peut-être qu'on n'attendait pas.
Peut-être pas Boateng.
Ça va quand même.
Boateng, c'était pas mal. J'ai trouvé la défense du Bayern très solide, comme elle l'a rarement été donc dans son histoire récente. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat qui doit exister en Allemagne, savoir est-ce que ces joueurs-là doivent revenir, qui sont pas si vieux que ça. Je crois que Thomas Müller, il a 30 ans, Jérôme Boateng, il a... disons qu'il a fait un choix. C'est vrai que c'est compliqué un petit peu aujourd'hui de revenir dessus, parce qu'il a bâti un groupe.
Il l'a re-répété.
Maintenant, quand on regarde cette équipe d'Allemagne, c'est vrai que si on y ajoutait deux ou trois cadres avec le potentiel offensif qu'ils ont, la vitesse qu'ils ont devant, ce serait peut-être pas mal aussi de panacher un tout petit peu plus.
Müller, il peut pas leur faire de mal. C'est un joueur qui est intelligent, qui joue dans les intervalles, qui a une expérience XXL. Je veux bien entendre sur Boateng. Je pense que son prime est passé, entre guillemets, même si ça reste un joueur très compétitif. Après, Rüdiger, hier, il n'a pas
été... On a vu la défense de l'Allemagne hier.
Ouais, Rüdiger, Chelsea a essayé de refourguer au Paris Saint-Germain. Je crois qu'ils ont plutôt bien fait de ne pas le prendre. Quand t'as Kimpembe, t'as pas besoin de Rüdiger. Enfin, ça, c'est juste une opinion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pareil pour l'Espagne, parce que c'est deux équipes qui ont été dans l'ultra-possession ces dernières années. Surtout l'Espagne, qui n'arrivait pas à accélérer dans les 30 derniers mètres. Alors Adama Traoré peut apporter une réponse, mais l'Allemagne c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui ils jouent plus avec un point de fixation comme ils l'ont toujours fait. Ils en ont plus, et c'est Werner qui est en fait un joueur qui dézone et qui est mobile. En fait, ils sont plus davantage dans une verticalité et une intensité. C'est aussi des équipes qui deviennent de plus en plus hybrides, et ça, c'est du travail, ça prend du temps. Après, Yogi Löw, c'est facile de lui tomber dessus. Toute l'opinion publique réclamait le départ des cadres à un moment, parce qu'on disait ça y est, ils sont arrivés au bout.
Après 2018, après la Russie, bien entendu.
Je suis pas en permanence en Allemagne pour pouvoir juger les vagues d'opinion pour ou contre les joueurs, mais j'avais pas noté qu'il y avait vague d'opinion contre Thomas Müller.
Après l'élimination au premier tour.
Ils avaient dit tout le monde à la retraite.
Oui, tout le monde, quoi.
Tout le monde, sauf
simplement
cela.
Et Müller, il peut pas leur faire. Je suis d'accord avec toi, Müller, c'est un joueur intelligent.
Il a gardé Neuer quand même. Philippe, est-ce que c'est finalement là aussi une transition et une préparation? Joachim Löw, il voit à plus long terme.
Oui, mais bien sûr, pareil, toutes ces équipes sont en...
La Ligue des Nations, ils ont gagné qu'un seul match pour l'instant disputé, on a bien l'impression que...
Rassurez-moi, c'est quand même des équipes qui ont envie de disputer l'Euro et de le gagner éventuellement.
Non, mais justement, on a bien l'impression qu'ils s'en servent dans le vrai sens du terme, amical, et se préparer.
C'est un laboratoire, visiblement.
Avec des vrais bons adversaires.
Et des bons laboratoires, je peux vous dire qu'il y en a en Allemagne.
Oui.
Ah oui.
Bon, la chimie, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien.
Ah bon.
Non, c'est vrai.
Bon, en tout cas, oui, c'est l'Allemagne typiquement est en préparation. C'est des choix qui sont liés aussi à une époque, et on peut tout à fait imaginer que dans 6 mois. Au mois de mars, il sera toujours temps de ramener Thomas Müller, par exemple.
Oui, voilà.
Franchement, je m'inquiéterais vraiment pas pour ce type d'équipe. Elles seront néanmoins concurrentes pour être titrées au prochain Euro.
Alors, on s'inquiète pas, parce qu'ils ont toujours été dans le dernier carré entre 2006 et 2017, ou à chaque fois dans les grandes compétitions. J'inclus la Coupe des Confédérations que vous avez remportée, mais
sauf la Coupe
voilà,
du monde 2018.
À partir de 2018, bon, donc c'est assez récent. Nabil, un petit mot, allez, sur Algérie, Mexique, vous avez plutôt regardé hier soir.
Oui, hein, honnêtement,
on,
j'ai pris,
on connaît vos penchants.
Ah, il y a des matchs qu'il a pas regardé, ça a pas empêché d'en parler quand même. Donc c'est bien. C'est un vrai talent, Nabil.
Je lis et puis surtout, je vous laisse parler en premier. Je m'inspire de vous, Étienne. C'est une stratégie. Non, mais j'ai regardé Algérie. Donc pour l'Algérie, c'est le 20e match sans défaite. C'est plutôt sympa. C'était un match face à une équipe d'une autre confédération et les Fennecs ont plutôt répondu présent parce qu'ils ont été réduits à 10 à la 55e minute et ils ont fait deux partout avec un bon match voilà de la sélection algérienne et aussi une belle équipe du Mexique qui est classée 11e au classement FIFA et notamment avec le bien nommé Corona. Je peux vous dire que c'est un vrai poison
c'est
dans la défense.
La chanson de tout à l'heure.
Voilà, exactement. Et c'est un vrai
Monsieur
bon joueur. C'est un vrai bon joueur. Alors pour ceux qui connaissent un peu les anciennes vedettes en Amérique du Sud, il ressemble beaucoup dans le style à un joueur qui a joué au Chili que j'adorais, qui s'appelait Humberto Suazo.
Demain, justement, on aura une page sur le football sud-américain. On parlera de Neymar, qui pourrait bien rejoindre Pelé. En tout cas, qu'il y a des passés Ronaldo dans la légende. On reviendra sur Messi.
Nous, c'est Giroud qui a dépassé Platini. Chacun son débat.
Et ce soir, Nabil,
Arnaud Demar qui a rejoint Ino.
Mais Neymar est parfois aussi controversé que peut l'être Giroud en France.
On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite.
Bon, en tout cas, Nabil.
Comparaison n'est pas souvent raison.
Et ce soir, il y a un Croatie-France ce soir qui jouera à Zagreb et il y aura 7000 spectateurs. Super Mario, mais où es-tu? Mais que fais-tu, Mario Balotelli, le si génial attaquant italien balle au pied, enfin quand il le veut bien? Eh bien, Mario semble ne plus le vouloir. Il est sans club, sans contrat, à 30 ans, un âge où pourtant il pourrait accomplir de grandes choses encore pour une équipe s'il en avait une. Malheureusement, il n'aurait plus la tête au football. En tout cas, c'est ce que dit son agent, le fameux italo-néerlandais Mino Raiola. Est-ce que c'est triste pour le spectacle, Nabil Djellit, de ne plus voir Balotelli et ses facéties? On se souvient de lui avec le maillot au moins des Citizens. On se souvient de lui aussi du côté de Nice ces derniers temps.
C'est surtout triste pour lui, quoi. Après, si lui n'a plus la tête au football, c'est un choix personnel qu'on peut comprendre. C'est vrai que c'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, qui aurait pu faire une toute autre carrière. C'est plus un gâchis qu'autre chose, Mario Balotelli, parce que c'est un joueur de très haut niveau, capable de performer comme il l'a fait à Manchester City, à l'Euro avec l'Italie, mais sa carrière n'a pas du tout suivi en fait la ligne de son potentiel. Aujourd'hui, c'est plus un joueur à problème, si je puis me permettre. La dernière fois, on l'a vu très performant, c'est à Nice. À Marseille, il a été bon, ratio but, match joué, mais c'était ingérable dans le vestiaire. À Nice, ça s'est mal terminé. Il est retourné chez lui à Brescia. Il est natif de là-bas. On aurait pu penser que ça allait correctement
se passer. Moi, ça le motiverait.
Ça allait correctement se passer. Non, aujourd'hui, quand vous voulez recruter Mario Balotelli, il faut bien réfléchir parce que le rapport bénéfice-problème, il est souvent favorable au problème.
Nouvelle étonnante dans votre journal, l'équipe Étienne Moati, c'est que peut-être que Saint-Étienne aurait voulu essayer de le recruter. C'est étonnant,
Vraiment, peut-être. Vraiment.
Oui, mais quand on regarde donc qui était le niveau de proposition de Saint-Étienne, donc qui est aujourd'hui un club qui a peu de moyens, c'était autour de 100 000 euros de salaire pour un joueur qui était annoncé comme une vedette du football mondial et qui n'a aujourd'hui que 30 ans. On mesure ce qu'a pu être la chute de Mario Balotelli. Après, quand on voit donc son allure, son aspect physique, c'est plus celui d'un footballeur de très haut niveau son mental.
Qu'est-ce qu'il attend, l'Asie, le golf, pour terminer Pré-retraité.
Ça a l'air d'être même au-delà de ça, parce que c'est plus, je pense, dans sa tête où, franchement, les fils se touchent assez souvent et il pète des plombs en permanence. Mais aujourd'hui, on sent qu'il a même plus d'envie du tout de faire ce métier-là. Et c'est quand même assez assez triste, parce que au-delà de ses qualités de footballeur qu'on a peut-être vu un tout petit peu trop belle au départ, parce que finalement, c'était pas non plus l'immense joueur
les
qu'on
buts
pouvait
qu'on
imaginer.
Tout à l'heure, on se souvient de l'Euro.
C'était pas mal, mais à un moment donné, quand il est apparu, on pensait que ça allait devenir une des vedettes du football mondial. Bon, il avait pas ce niveau-là, mais il avait évidemment un niveau bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et puis surtout, il a aussi une personnalité très attachante, très forte, un charisme absolument incroyable, que peu de footballeurs ont. Donc c'est aussi dommage de ce point de vue-là.
Il y a besoin d'entraîneurs un peu papa, on se souvient de... Non, mais c'est vrai, Roberto Mancini à l'époque, Lucien Favre aussi. Philippe, en fait, Super Mario, on en parle aussi parce que c'est un peu la tête d'un iceberg. Il y en a d'autres, il y en a bien d'autres, des joueurs qui se sont perdus comme ça et souvent, bien sûr, avec beaucoup moins de talent. Mais lui, c'est vraiment l'illustration aussi que le mental doit être là. Et moi, je me souviens d'un article dans SoFoot une fois qui avait quand même très bien expliqué son enfance compliquée et tout ce qui faisait que parfois ça ressortait sur un terrain et autour du terrain.
Non, mais vous avez tout dit. C'est un problème mental, enfin
discipliner.
Il faut aimer le foot. Non, mais il faut aimer le foot. Pour faire une très grande carrière, il faut aimer le foot et être passionné de foot, comme le sont des Messi, des Ronaldo et autres. Et puis, c'est pas donné à tout le monde d'aimer le foot sans arrêt, tout le temps, tous les ans, etc. Et lui, on voit bien que c'est cyclique. On voit bien que du coup, dès qu'il est pas bien, le physique en pâtit immédiatement, parce que c'est quand même un joueur. Moi, j'ai quelques témoignages qui me disaient, mais c'était extraordinaire. À Liverpool, c'était extraordinaire, il courait jamais. Mais pas un mètre. Il faisait pas un mètre parce qu'il avait pas envie de jouer. Il faisait pas un mètre. Jamais à l'entraînement.
C'est pas que de la faute des
évidemment,
autres.
Évidemment, au bout d'un moment, si vous faites jamais un mètre, physiquement, vous êtes incapable de jouer un match. C'est aussi simple que ça. Alors la solution ne sera même pas d'aller en Chine ou autre. Il aura même pas envie. Il sera tellement loin de ce qu'il pense être à juste titre, enfin de ce qu'il est comme footballeur, qu'il va tellement s'ennuyer à être hors du coup physiquement et autres, qu'il ira ni en Arabie Saoudite ni en Chine ni nulle part. Il arrêtera de jouer s'il n'est pas capable de s'intéresser à ce qu'il fait. Il faut être passionné pour jouer au foot. C'est une dimension qui est indispensable.
Nabil, est-ce qu'on peut se demander aussi si son agent il l'a aidé? Parce que Mino Raiola est extrêmement connu pour négocier des gros contrats juteux. Mais on sait aussi que, et vous connaissez bien des agents, qu'ils ont aussi ce rôle parfois d'appeler à 2h du matin un joueur qui n'est pas bien, qui
Moi,
doute.
Moi, je pense qu'il s'est globalement quand même occupé de lui. Raiola, il a pas 400, c'est pas Mendes avec une écurie, une trentaine de joueurs et quelques nourrices à droite à gauche. Je trouve que ça a plutôt été un magicien parce qu'il lui a trouvé à un moment des solutions avec des gros clubs.
Ouais, il a su relancer plusieurs fois.
Ouais, donc moi je pense que la problématique c'est Balotelli lui-même.
Il a vraiment plus la tête au foot.
Je sais pas, puisque moi, je ne connais pas personnellement.
C'est ce que lui a dit, c'est pour ça, on peut le croire.
Ouais,
quoi.
Je sais pas du tout dans quel état d'esprit il a. Après, son histoire, effectivement, elle l'a structuré d'une certaine manière, il y a parfois des trous d'air. Mais je sais aussi, et j'ai eu des retours, c'est un mec qui est quand même pas toujours super sympa, qui peut être égoïste également aussi. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas que de la faute des autres. Je veux dire, c'est aussi lui qui a décidé que sa carrière allait être de cet acabit-là. Parce que je suis d'accord avec Étienne, c'est pas Ibrahimovic, c'est pas Ronaldo, Mais bon, c'est la deuxième catégorie. Je veux dire, au top, quand il est au top, quand on le voit avec Nice dans un collectif qui tourne bien, à ce moment-là, vous dites, mais lui, il peut jouer au PSG. Je veux dire, il pourrait être dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Sur les qualités, c'est un joueur de grand club, titulaire ou dans le groupe. Mais aujourd'hui, attendez, il galère à Brescia, il a des propositions de Saint-Etienne. Quand il sort de... Non, mais j'ai rien contre Saint-Etienne. Mais quand il sort de Liverpool, il se propose à lui, il est en galère, Nantes, Bologne, vous imaginez l'ascenseur émotionnel, même pour l'estime qu'il a de lui-même.
Oui, mais il a eu des possibilités en France, que ce soit à Nice ou à Marseille, qui est quand même un club où il y a une ferveur populaire, etc.
Qui semblait pouvoir, lui plaisait au départ.
Qui semblait pouvoir lui convenir très bien pour se relancer, etc. Donc il a eu, et je pense que Mino Raiola a fait son travail avec Balotelli. Il a eu donc des grands clubs avec lesquels ça s'est pas bien passé, comme City. Puis il a eu des clubs moins importants, mais qui étaient quand même des grands clubs historiques comme Marseille, avec un public, avec une ambiance, etc. Ça a pas marché.
Il a raté quelque chose avec Marseille. Je pense que c'est une ville qui pouvait lui Marseille. Ouais, je pense que c'est lui qui lui correspondait. C'est dommage parce qu'en fait, il devait signer, ça s'est pas fait. Il est venu que 6 mois plus tard et il a été bon, d'ailleurs. Mm-hmm. Quand vous regardez, par rapport aux derniers attaquants que l'OM a eu.
Il a mis des buts.
C'est celui qui a quasiment le meilleur ratio. Non, mais les qualités de footballeur, il y a pas de problème. Ses qualités d'appel, sa qualité. C'est un vrai, très bon attaquant. Donc c'est vrai qu'il y a de la frustration et c'est d'autant plus frustrant parce qu'il a quelque chose, il a un charisme effectivement qui est hors norme, il avait tout pour être une superstar du foot.
Philippe, vous avez un exemple comme ça d'un autre grand gâchis
Ben Arfa, non, c'est le seul qu'on
sait. Oui.
C'est un peu dans le même registre.
On pourrait,
talentueux Ben Arfa, je pense quand même.
Ouais, enfin, Balotelli, il a quelque chose aussi, mais c'est vrai qu'à thème.
On va prendre la génération, toute la génération 87, à part Karim Benzema, vous pouvez aussi mettre Jérémy Ménez, par exemple, qui était un joueur aux qualités individuelles extraordinaires et qui fait une carrière, je veux dire, très très quelconque par rapport à ses qualités.
Adil Tarab, par exemple.
Alors, je sais que ça Tarab.
C'est un talent incroyable. Et bon, il pète les plombs, il sort au milieu d'un match de CFA de Lens, il revient pas. Voilà, c'est comme ça. Mais aussi, après, il faut accepter aussi qu'il y ait différents types de personnalités. Et que voilà, c'est comme dans la vie, je veux dire, tout n'est pas formaté, lisse d'une certaine manière, et des caractères, et c'est comme ça.
Alors, c'est pas le problème de Ben Arfa, d'ailleurs, qui est d'une personnalité. Contrairement à tout ce qui est raconté, qui est assez facile et qui ne pose pas de problème. Mais ce sont des gens qui ont une exigence très forte par rapport au talent réel qu'ils ont. Et à un moment, quand ils sont pas satisfaits, quand ils se retrouvent dans des situations où ils ne devraient pas être, mentalement, ils décrochent un petit peu parce que ça les intéresse pas. Balotelli, je pense que Brescia, ça l'a pas intéressé du tout. Et c'est un football d'une pauvreté. Et du coup, il se laisse aller. Et puis, alors là, il devient nul lui-même. Il n'y a pas de problème.
À une autre échelle, même si c'est peut-être pas exactement le même talent que Balotelli, mais Mbanyang, par exemple, à 16 ans, c'est un phénomène. Et sa carrière, en fait, elle est pas du tout tracée. Elle est pas du tout à la hauteur de son talent. Et derrière, il fait des choix bizarres. Il a pas toujours le bon comportement. Et regardez à Rennes, même quand il est bien, il est relancé, il est dans une équipe où il faut être en ce moment, il trouve le moyen de se tirer une balle dans le pied, excusez-moi l'expression. Voilà, il y a comme ça des joueurs qui, c'est pas lié qu'à leur entourage. C'est aussi eux.
Carrière, c'est un tout, et la tête compte énormément. C'est même un élément moteur. L'intelligence, l'envie, la façon de gérer une carrière, les choix de carrière. Mais les choix de carrière, ils viennent avec tout ça, avec l'intelligence, avec aussi parfois un peu de chance, un environnement, etc. Mais pas que. C'est dans le champion qu'on se construit.
Ouais. Dernière partie de ce Radio Foot International. On y va tout de suite et on va parler de droit télé et du football français qui est donc menacé de banqueroute.
Bienvenue sur Téléfoot, la chaîne du foot.
Trêve de blabla, trêve de plaisanterie, des images, de l'émotion, de la passion. C'est Téléfoot, c'est ce qui vous attend dans les mois et les années.
Position figée dans ce dossier Mediapro et la Ligue de football professionnel, se regardent toujours en chien de faïence. Ils observent sûrement le moindre signe, la moindre défaillance adverse pour s'infiltrer dans une brèche. Mediapro qui aurait dû payer 172 millions de droits de retransmission télé le 5 octobre dernier n'a donc toujours pas payé et veut même renégocier. La LFP, elle, refuse toute négociation et devrait pour le moment, après le comité d'administration, le conseil d'administration de demain matin, emprunter la somme pour la redistribuer au club de L1 et L2. Est-ce qu'il y a du nouveau sur les positions figées à cette heure, Étienne Moati?
Non, vous avez assez bien résumé la situation. Donc pour l'instant, elle est totalement figée, ce qui est extrêmement inquiétant pour le football, parce que quand vous avez une échéance qui n'était que la deuxième du contrat de Mediapro sur la première année de contrat.
Il y a 4 ans, donc, théoriquement.
Oui, ça va être long, 4 ans peut-être, d'arriver au bout de ce contrat-là. Donc on se rend bien compte qu'il y a immédiatement des difficultés de paiement, et donc c'est vraisemblablement un artifice de Mediapro, parce que le Covid, il a bon dos dans cette affaire. Il pouvait imaginer...
Aussi, je crois.
Oui, il pouvait imaginer, comme tout le monde, que forcément, ça mettra un petit peu de temps, donc, avant de recruter des abonnés qui pouvaient vous permettre ensuite de financer les droits. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il fallait avoir un peu de trésorerie qu'ils ont sans aucun doute, mais qu'ils ne veulent pas utiliser. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas l'utiliser? Peut-être, et c'est ça qui est plus inquiétant encore pour le football français, parce qu'ils ne croient plus au projet. Et c'est ça qui peut être extrêmement inquiétant, parce qu'aujourd'hui, ils ne payent pas, ils veulent renégocier. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils veulent payer par la suite, est-ce qu'ils veulent pas tout simplement sortir de ce contrat? Parce que quand ils l'ont signé, bah, tout le monde s'est dit, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour la Ligue 1, plus de 800 millions d'euros de droits par an, sur un marché qui est extrêmement occupé. Il y a Canal+, avec Philippe Doucet. Vous imaginez, quand vous allez en concurrence contre des gens comme ça, c'est extrêmement difficile. Vous avez beIN Sport, vous avez RMC Sport, vous avez la chaîne L'Équipe, à laquelle on participe
bien
de temps
sûr,
en temps. On
retransmet
des rencontres. Voilà. Donc, le marché est très occupé. Donc, c'est difficile de se faire une place et peut-être qu'ils sont en train de s'en rendre compte.
Mais c'est surprenant quand même, Nabil, parce que on savait qu'il y avait cet embouteillage et eux, Média Pro, connaissaient, en venant se proposer, notre correspondant en Italie hier me rappelait qu'ils sont en plus candidats pour acheter les saisons à venir de la Série A. J'espère qu'ils liront L'Équipe
avant de signer. Je crois
qu'elles
sont fait une bonne presse, là.
Oui, mais en tout cas, Média Pro s'était renseigné, on imagine.
Mais là, c'est Mediatro, là, en ce moment. Excusez-moi, Annie, mais non, mais c'est bancal depuis le départ. On a eu ce signal d'alerte avec les Italiens.
Mais d'ailleurs, ils ont monté leur chaîne de télévision. Nous, on le sait par nos confrères et tout. Ils l'ont monté très tard. On s'est demandé jusqu'au dernier moment si vraiment ils allaient monter une chaîne.
Oui. D'ailleurs, ils sont avant tout producteurs plus que diffuseurs initialement. Je veux dire, c'est aussi un nouveau métier pour eux, mais c'est aussi des coûts et
ils ont
des charges.
Employé beaucoup de personnes.
Voilà, c'est une rédaction. C'est des journalistes qui ont été débauchés. On en connaît certains. Donc, c'est tout un écosystème qui est aujourd'hui mis en danger. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant quand même la version d'Étienne parce que en fait tu penses qu'ils veulent partir quoi.
Pour moi c'est du jamais vu, donc aussitôt dans un contrat d'arrêter les versements, donc c'est évidemment extrêmement inquiétant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'appel d'offres, il y avait plusieurs données qui étaient particulières et qui étaient nouvelles. Il y avait une possibilité de sous-licencier, c'est-à-dire que vous achetez des droits et puis vous pouvez et vous avez le droit de tenter de les revendre à d'autres. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait.
C'est ce qu'on a imaginé qu'ils feraient pendant
ils ont essayé de le faire avec Canal+, qui à l'époque était sorti bredouille de l'appel d'offres. Finalement, ils n'ont pas trouvé d'accord et Canal+ a racheté les matchs qu'avait acquis initialement beIN Sport. Donc ils se sont retrouvés avec tous les droits, personne à qui les vendre, des montants très élevés et comme je le disais, dans un marché très occupé. Donc aujourd'hui, quand vous rajoutez, peut-être c'est vrai aussi, un tout petit peu de crise quand même économique mondiale, Média Pro souffre, ça fait beaucoup d'éléments qui sont inquiétants pour la suite
de
la tenue de ce contrat.
Ils seraient adossés quand même à un groupe chinois tentaculaire.
Mais tu connais les riches, Nabil, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont envie de le sortir. Donc
Non, mais ce qui interpelle dans cette histoire, quand même, pour dire un peu les choses, c'est que, bon, on voit un peu la vitrine, Rourès, les Catalans, Média Pro en Espagne,
on
nous a parlé d'un groupe Sino, donc Sino c'est chinois, espagnol.
Ils ont une grosse partie du capital
donc,
en plus.
Eux, c'est la caution solidaire. Où est-ce qu'ils sont?
C'est juste en deux mots aussi, donc une erreur grave qui a été faite par la Ligue, c'est-à-dire que ils n'ont pas de garantie bancaire. Alors c'était compliqué d'avoir une garantie bancaire sur le montant total du contrat qui est à 3,2 milliards d'euros, mais vous pouviez quand même avoir une garantie sur une partie
assurance,
de la somme,
en tout cas
au moins pour la première saison ou la moitié de la première saison.
Pour voir ce que ça
ils n'ont
donner.
Rien du tout, et comme l'évoquait Nabil, aujourd'hui pour la Ligue, il faut se tourner vers l'actionnaire chinois, donc bon courage pour la récupérer votre argent là-bas.
Philippe, est-ce que vous pensez aussi que en fait c'est un bras de fer pour partir, parce que là l'image, les gens là ils cherchent des abonnements et ils en voulaient beaucoup, ils espéraient arriver à 3,5 millions. On pense que les gens ont pas trop envie de s'abonner en ce moment.
Oui, moi je peux difficilement parler beaucoup de Média Pro, c'est pour des raisons évidentes, je peux pas dire énormément de choses, mais ce qui est vrai, c'est dans tout ce qui a été dit, c'est que forcément en termes de commercialisation, l'annonce elle met un froid terrible et du coup on n'imagine pas que des tas de gens vont s'abonner derrière. Forcément on peut le comprendre tel quel. Et moi je vais pas parler beaucoup de Média Pro. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les conséquences et l'inquiétude qu'on a pour les clubs, parce que là, Étienne, à juste titre, dit que la Ligue va faire tout ce qu'elle peut pour verser les sommes, mais ça va être des sommes empruntées. Il va falloir que l'État, et là, on a une nouvelle formidable quand même, c'est que l'État semble avoir pris conscience, même la ministre, a fait un discours positif pour le football pro.
Mais aujourd'hui, ça sont des belles déclarations. Ah ben,
aujourd'hui, quand on lit l'équipe, on voit le poids qu'ont ces droits télévisés.
C'est 40 000 emplois aujourd'hui, hein, le football le professionnel. Hein.
Exactement. Hein. Mais surtout, en plus, Philippe, eh ben, certains clubs, évidemment, le PSG étant club de peloton, évidemment, parce qu'eux, ils sont adossés à énormément d'argent du Qatar, on le sait. Mais par exemple, Nîmes, voire le club de Reims,
ouais,
hein,
c'est
qui est troisième.
60-70% du budget
exactement.
Des clubs.
Ils ont misé là-dessus pour les
transferts.
Mais alors, moi, je vais vous demander à chacun, mais quelle serait la solution selon vous ? Est-ce que la LFP doit, elle est en droit, si c'est pas payé, hein, de dénoncer un contrat ? Est-ce qu'il faut choisir Canal+, ou BeIN, qui ont déjà un savoir-faire ? Évidemment, ça va être négocié pour moins cher, mais ça...
Savoir-faire, c'est bien, l'argent, c'est pas mal aussi, donc pour les clubs de foot. Donc, évidemment, la situation, elle est extrêmement compliquée pour la Ligue, parce que d'un point de vue contractuel, elle pourrait, au bout de 30 jours donc de non-paiement...
Donc le 5 novembre, ou le 4 novembre prochain,
près, assigné, dénoncer le contrat et donc récupérer ses droits et les remettre sur le marché. D'abord, donc la saison a démarré sur les droits de Mediapro, donc c'est une première difficulté, mais la difficulté essentielle, c'est que si vous faites ça, bah, je vous garantis que vos droits ils vont être divisés par deux. C'est-à-dire c'est plus un milliard d'euros que vous aurez, c'est à peine 600 millions d'euros.
Mais s'ils
ne
payent pas la première
d'euros.
Retraite et la deuxième...
Oui,
et...
mais donc, pour le moment, je ne vais pas leur trouver de solution, donc s'ils m'écoutent, ça ne va pas leur servir à grand-chose, mais c'est quand même compliqué de dénoncer immédiatement le contrat. C'est-à-dire, la première solution, c'est de tenter d'aller chercher chez l'actionnaire chinois une partie au moins de la somme.
Une réaction.
Ça sent casse-tête chinois, cette histoire. Mais Annie, ce qui est important de dire quand même à nos auditeurs, c'est que les clubs, aujourd'hui, ils ont un budget prévisionnel qu'ils ont calé sur cet argent.
Je
vous donne un exemple très simple. Lens, il recrute Ganago 6 millions d'euros. Lorient, il recrute Gribic 10 millions d'euros. À ce moment-là, on se dit, c'est énorme. C'est parce qu'ils ont reçu le premier versement. Donc ça veut dire que
c'est qu'ils attendent le deuxième.
Et voilà. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on a déjà payé presque à crédit, quoi.
C'est des contrats de 3 ou 4 ans sur des joueurs, c'est-à-dire qu'on a déjà anticipé qu'on pouvait donner telle masse.
Il y avait un contrat de 4 ans.
Faire tant de transferts, faire tant de masse salariale sur X années.
Philippe, qu'est-ce que vous pensez ?
On se retrouve dans une difficulté sans nom.
De la proposition de Jean-Michel Aulas, quand même, qui est un des grands dirigeants de clubs français et qui propose un Spotify du foot ou un Deezer du foot, mais en tout cas qui définit l'exclusivité. Mais allons, parce qu'on ne sait jamais finalement à qui s'abonner et où regarder l'équipe de cœur en tout cas, et surtout des abonnements pas chers, parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup à Mediapro. Ils proposent un abonnement de 25 euros par mois.
Pour 80% seulement des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, alors que les autres opérateurs...
J'étais pas très fort en maths à l'école, mais quand même un tout petit peu. Si vous payez des droits à 1 milliard d'euros, vous êtes bien obligé de faire payer à un moment donné quelqu'un pour retrouver votre argent. Donc vous pouvez pas verser 1 milliard d'euros au club et puis en même temps de dire que l'abonnement ça va coûter 2,50 €.
Philippe, Deezer ou Spotify ?
Non, en tout cas, Jean-Michel Aulas, faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il cherche des solutions. Ça, faut lui reconnaître ça, toujours. Et il regarde toujours devant. Il a souvent été visionnaire. Donc faut l'écouter.
Exactement.
C'est intéressant. Ce qui semble, en tout cas, c'est que je ne crois pas que la solution dont Jean-Michel Aulas parle puisse être exploitable demain. Le remplacement immédiat me paraît très
encore
hasardeux.
Que le tennis est vendu à Apple TV.
Mais y réfléchir.
On peut même dire impossible. Hein.
C'est même impossible. Au niveau somme, c'est impossible parce que c'est bien sur le principe, il y a plein de choses qui peuvent être formidables. Mais après, il va falloir au moins ramasser pour que les clubs ne meurent pas en route. Il va falloir au moins arriver, je sais pas, à une somme genre 800 millions ou autre et qu'il y ait en plus des aides de l'État ou autre pour qu'on arrive à l'équivalent d'un milliard, en dessous d'un milliard. Je pense que la bulle peut exploser. Donc il va falloir être hyper imaginatif et on peut tout imaginer. C'est-à-dire que, bien sûr, d'autres chaînes, celles qui sont encore sur le marché, reprennent certains droits s'il y a un nouvel appel d'offres. On peut imaginer qu'il y ait les GAFA qui viennent sur certains produits. On peut imaginer même, pourquoi pas, une fenêtre en clair. Ça réconcilierait peut-être tout le monde avec le grand
sur
public.
Sur la chaîne L'Équipe avec Nabil Djellit au commentaire.
Pourquoi
ça,
pas,
Étienne Moati, juste une question, oui, non. Il y a déjà un exemple de retransmission comme ça qui, au dernier moment, ne paye pas ses droits.
L'Angleterre, c'est Enta.
Les Irlandais, mais moi j'ai connu un grand groupe donc, qui avait des droits, c'était le groupe Kirsch en Allemagne qui avait les droits des Coupes du Monde qui a fait faillite.
Merci à tous et à demain.